Alors nous allons continuer notre parcours dans l'Exode. Et dans les semaines précédentes, il y a une idée quand même qui est revenue assez régulièrement. C'est que finalement, Dieu a appelé Moïse pour partir en Égypte pour qu'il puisse libérer son peuple. Et derrière cette idée, il y avait aussi l'idée que Dieu nous a nous aussi appelés de la même manière à le servir. Et cet appel, finalement, peut prendre des formes multiples au travers de l'Église, de la mission, des camps. Chacun de nous peut mettre ses dons au service de Dieu d'une manière, finalement, bien différente. Mais au-delà de ça, nous avons reçu un appel commun, un appel qui nous concerne tous, un appel auquel de nous ne peut échapper, un appel qui nous dit que nous avons à annoncer l'Évangile là où Dieu nous a placés. Et peut-être que vous vous êtes engagé dans cet appel en essayant de partager l'Évangile avec vos amis, vos voisins, vos familles. Peut-être que vous les avez invités à un temps de thé ou à un de nos cultes découvertes, peut-être à Pâques ou à Pentecôte. Vous avez prié pour ces personnes en famille, vous avez prié pour ces personnes dans les groupes de maison, pour que Dieu vous donne de leur parler avec sagesse, pour que Dieu touche leur cœur par son esprit. Et c'est l'échec total. Rien ne s'est passé comme vous l'aviez espéré. Les personnes que vous aviez invitées ne sont pas venues. Pire, maintenant elles prennent de la distance avec vous. À chaque fois que vous les voyez, elles sont sur la défensive en essayant d'éviter une conversation que vous n'avez même pas encore commencée. Ou alors vos invités sont venus une première fois et c'était vraiment sympathique. Ça fait tant d'années que vous espérez qu'ils viennent là et qu'ils entendent l'Évangile. Et vous avez vos cœurs réjouis. Et vous les invitez une deuxième fois. Et non. Une fois, mais pas deux. Le lendemain, tout est à nouveau comme avant. Finalement, la déception est là. Peut-être n'avez-vous même plus osé leur parler de quoi que ce soit. Moïse est perdu au début de notre texte. Dieu l'a appelé. Il est allé le chercher au milieu du désert. Il l'a persuadé, alors que Moïse a lutté contre lui, d'aller chercher son peuple en Égypte. Il l'a assuré de la réussite de sa mission. Et finalement, Moïse y est allé. Finalement, Moïse a parlé. Et c'est un échec cuisant. D'un esclavage difficile, le peuple endure maintenant un esclavage encore plus dur. L'espoir de la délivrance s'est totalement obscurci. Moïse est remis en question même par le peuple qui le rejette une nouvelle fois. Pour Moïse, tout semble perdu. Il est en colère contre Dieu. Et ne sommes-nous pas des fois en colère contre Dieu ? Lorsque nous constatons que malgré notre obéissance difficile, Dieu n'a pas agi selon ses promesses. Dieu s'est détourné de nous. Écoutez Moïse, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé ? Depuis que je suis allé trouver Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Si vous vous êtes engagé dans l'appel de Dieu à annoncer l'Évangile à tous ceux qui vous entourent, vous avez dû vivre cela à un moment ou un autre. Ou vous allez vivre cela à un moment ou un autre. Dieu vous aura convaincu de parler et vous allez constater l'échec de votre témoignage. Lisons Exode 5 à partir du verset 22. Pour les versions comme celle-ci, c'est page 42. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé ? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple. Et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, « Je suis l'Éternel. Je vous délivrerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites. Mais l'impatience, la dureté de leur esclavage les empêchèrent de l'écouter. L'Éternel dit à Moïse, « Va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ? » Cependant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Il leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du Pharaon, du roi d'Égypte, pour les faire sortir des Israélites d'Égypte. Voici leur chef de famille. Fils de Ruben, le fils aîné d'Israël, Hénoc, Palu, Hetzron et Carmi. Tels sont les clans de Ruben. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar, ainsi que Saül, le fils de la Cananéenne. Tels sont les clans de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi en fonction de leur lignée. Gershon, Kenak, Merari, Lévi vécut 137 ans. Fils de Gershon, Lipni, Shimei et leur clan. Fils de Kenat, Amram, Jitsehar, Hébron, Urziel, Kenat vécut 133 ans. Fils de Merari, Makli, Mushi, tels sont les clans de Lévi en fonction de leur lignée. Amram prit pour femme sa tante Jochébed et elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Fils de Jitsekar, Koré, Nepheg et Sikri. Fils d'Uziel, Michaël, Esaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Elisheba, fils d'Abinabab et sœur de Nachron. Et elle lui donna pour fils Nabab, Abihu, Éléazar, Itamar. Fils de Koré, Assir, Elkanar et Abiasaf. Tels sont les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel et elle lui donna les fils des Phinées. Tels sont les chefs des familles des Lévites avec leur clan. C'est à cet Aaron et à ce Moïse que l'Éternel dit « Faites sortir les Israélites d'Égypte en corps d'amis. » Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, au roi d'Égypte, pour faire partir les Israélites d'Égypte. Il s'agit de ce Moïse-là et de cet Aaron-là lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte. Il dit, « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écouterait-il ? » Je voudrais, autour de ce texte, voir deux points. Nous avons reçu un appel, mais cet appel est un appel dans la mission de Dieu. Nous avons reçu un appel dans une mission qui n'est pas à nous, mais nous sommes voulus par Dieu dans cette mission. Un appel dans la mission de Dieu. Dans ces moments, tels que peut vivre finalement Moïse, peut-être que nous aimerions que Dieu nous rassure, qu'il nous parle de nous, qu'il nous dit « Mais non, écoute, c'est pas ta faute. » Qui nous disent « Mais malgré ton échec, c'est pas grave, on va y aller, je vais t'expliquer comment on veut faire. » Nous voulons des assurances, nous voulons un plan. Et dans ce texte, nous voyons que Dieu vient parler à Moïse. Mais voici ce qu'il lui dit. Laisse-moi, laisse-moi te parler de moi. Et voyons quelques points finalement qui sont tirés de cette conversation avec Moïse. Premièrement, Dieu rappelle qu'il sait quand et comment agir. Tu verras maintenant. Dieu aurait pu agir finalement différemment. Il aurait pu commencer par la dernière plaie. Il aurait même pu anéantir Pharaon en un instant. Mais ce n'est pas son plan. Il réaffirme deux fois que c'est la puissance de sa main qui convaincra le Pharaon. Non seulement de les laisser partir, mais même de les chasser hors du pays. Et nous verrons dans quelques chapitres que 40 ans plus tard, la façon de faire de Dieu aura des impacts à leur arrivée sur le pays. La deuxième chose, c'est que Dieu rappelle qu'il est l'Éternel, le Dieu de la rédemption. Nous avons parlé dans le dernier ou avant-dernier chant de ce nom, de ce beau nom. Mais quel est ce nom finalement? Ce nom, c'est Yahweh. Ce nom, c'est « Je suis celui qui suis ». Ce nom est traduit par le Nouveau Testament comme « Seigneur ». Ce nom, c'est celui de Jésus. Dieu rappelle qu'il est le Dieu de la rédemption. S'il a appelé Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte, il rappelle qu'il est lui le Dieu qui est apparu à Abraham, Isaac et Jacob. Alors cette formule, Abraham, Isaac, Jacob, que l'on retrouve assez régulièrement dans l'Ancien Testament, nous parle, nous rappelle à chaque fois l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, qu'il a renouvelée avec Isaac et renouvelée avec Jacob. La première fois que nous trouvons cette mention, c'est par Joseph en Genèse 50 au verset 24. Joseph dit à ses frères qu'il va mourir. Mais il leur dit que Dieu fera un jour sortir son peuple d'Égypte pour les conduire dans le pays qu'il a promis. Et c'est une référence très claire à l'Exode que nous avons ici. Le Dieu de l'Alliance est souvent appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est une référence assez claire au rachat de l'Exode, à la rédemption. Mais Dieu ajoute quelque chose. Il dit « Mais je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac et Jacob, mais ils ne m'ont pas vraiment connu sous mon nom. » Et ça, c'est étrange. Parce que Dieu est connu depuis très longtemps sous ce nom-là. Déjà en Genèse 4, on lit finalement que Seth a un fils qu'il appelle du nom d'Enoch. Et c'est alors à ce moment-là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, Yahweh. Donc Dieu dit, il ne me connaissait pas sous ce nom. Et pourtant, bien avant ce moment-là, il était connu sous ce nom. Il était invoqué sous ce nom. Souvenez-vous du début du chapitre 5. Qu'est-ce qu'il se passe quand Moïse va voir Pharaon? Ils lui disent, voici ce que dit l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête dans le désert. Et vous vous souvenez de la réponse de Pharaon? L'Éternel? C'est qui? Et je ne connais pas, moi. Retourne au boulot. On en reparlera plus tard. Pharaon, qui était réputé être d'essence divine, qui était vivant sur terre pour diriger les hommes, avait comme tâche de défendre l'ordre qui était voulu par les dieux contre le chaos. Il dit, mais Yahweh, il n'est pas dans ma liste. J'ai plein de dieux, j'en connais plein. Je suis un dieu parmi les dieux. Mais celui-là, je ne connais pas. Et finalement, ce que nous montre notre texte, c'est qu'Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient pas non plus pleinement Dieu. Ils en connaissaient son nom. Mais là où nous apprenons à connaître Dieu, c'est dans sa rédemption, dans la puissance qu'il déploie pour racheter son peuple. On y reviendra un petit peu plus loin. On va retrouver cette même notion bien plus tard avec Jérémie. Voici ce qu'il dit au chapitre 16, verset 21. « Voilà pourquoi je vais leur faire connaître, cette fois-ci, je vais leur faire connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. » Il y a une différence entre connaître le nom et connaître la personne qui est révélée par le nom. Et Dieu se révèle dans l'Exode, dans la rédemption, dans le rachat. Troisième chose que nous voyons, c'est que Dieu rappelle qu'il agit dans le cadre de sa propre alliance. Au verset 4, Dieu rappelle que le cadre, l'alliance qu'il a établie avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est la base de sa promesse. C'est sur cette base-là qu'il vient pour sauver son peuple. Dieu n'est pas en train de débarquer dans l'histoire au hasard. Il vient sauver à un moment précis ceux auprès de qui il s'est engagé depuis des siècles. Dieu rappelle ensuite qu'il entend les souffrances de son peuple. Le peuple est accablé, il est esclave, il perd espoir en Dieu, mais Dieu n'oublie pas son peuple. Et comme nous l'avions déjà évoqué, lorsqu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu se souvient de quelque chose, c'est une expression pour nous montrer qu'il est prêt à agir. Il n'est pas en train d'avoir oublié, comme, un peu comme nous, d'un seul coup on se rend compte « Ah ! J'avais rendez-vous chez le médecin dans une heure !» Et je ne suis pas prêt. Ce n'est pas du tout ça. Quand Dieu se souvient, c'est qu'il remet devant lui l'alliance et dit maintenant, c'est le moment où je me prépare à agir. Mais finalement, Dieu fait encore une chose avec Moïse. Il lui rappelle l'objectif de son alliance. Quand nous lisons dans les versets... Excusez-moi, je n'ai pas noté, donc je vais le chercher. 7, 8. Dieu dit trois choses. Il dit, je veux que vous soyez mon peuple, je veux être votre Dieu et je vais vous conduire dans le pays de Canaan. Et ces trois choses nous rappellent une formulation que Dieu a faite depuis le jardin d'Éden. Une formulation qui traverse toute la Bible et on appelle ça la promesse tripartite de Dieu. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, j'habiterai au milieu de vous. Formulée dès la Genèse, cette promesse globale, générale, vise la grande histoire du salut. Elle vise l'éternité prochaine dans laquelle nous serons effectivement le peuple de Dieu. Chaque personne qui sera au ciel sera bien membre de ce peuple de Dieu. Elle nous dit que ce jour-là, dans l'éternité prochaine, Dieu sera notre Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu, il n'y aura pas d'idolâtrie. Il n'y aura aucun autre Dieu si ce n'est Dieu. Le péché aura totalement disparu. Et elle nous dit aussi que Dieu habitera pleinement au milieu de nous. L'Apocalypse même nous fait ce clin d'œil, nous dira, mais il n'y a même pas de soleil, parce que Dieu habite au milieu de son peuple et nous sommes éclairés par sa présence. Mais cette promesse qui nous concerne et trouve un premier accomplissement dans l'Exode, où Dieu va arracher son peuple au Pharaon pour en faire son peuple à lui. Il dit finalement, ce peuple qui servait Pharaon en Égypte va venir et va me servir dans le désert. Nous sommes arrachés au maître cruel pour appartenir à un maître qui nous veut du bien. Ce n'est pas une libération pour n'être plus rien ou n'appartenir à plus personne. L'Exode, c'est comment je passe d'un maître cruel qui m'a servi à un maître qui me libère, qui me veut du bien. Il leur dit également qu'il sera leur Dieu. Et dès la sortie du pays, il va leur donner la loi. Il va leur montrer comment on honore ce Dieu de nos vies, comment on se comporte avec lui. Il va leur donner ensuite les sacrifices, etc. Il va créer tout ce qui est nécessaire à la relation. Et puis il va leur donner un pays qui sera la première étape vers l'établissement de ce premier royaume où Salomon fera construire un temple et il viendra s'installer dans un lieu permanent. Finalement, après avoir été rassuré par Dieu, qui se révèle comme jamais il ne l'avait fait auparavant, Moïse retourne auprès des Hébreux. Mais, aveuglé par l'impatience, par la dureté de l'esclavage, ceux-ci le rejettent une nouvelle fois. Mais cela ne change rien pour Dieu qui lui demande de continuer sa mission, de retourner voir le Pharaon malgré le découragement qui fait suite à deux échecs consécutifs. Que faisons-nous quand nous échouons? Bien souvent, nous partageons l'évangile et nous échouons. Bien souvent, notre entourage préfère l'esclavage cruel dans lequel le maintient ce monde et le maître de ce monde plutôt que d'accepter, ne serait-ce que d'écouter, que Dieu est intervenu dans l'histoire pour les sauver. Ils préfèrent leur propre sort plutôt que de servir le Dieu vivant et vrai. Dieu nous rappelle ici que le salut, c'est son plan qu'il met lui-même en œuvre. C'est lui qui sait quand agir et comment. C'est lui qui est le Dieu rédempteur et pas nous. Ce sont ses œuvres qui sauvent et non les nôtres. Il connaît l'esclavage dans lequel se trouvent nos proches, nos voisins, nos collègues. Il sait exactement quel projet il a pour chacun d'eux. Dans notre appel à porter l'évangile, nous sommes responsables d'obéir à la parole de Dieu, mais pas du résultat. Le résultat, c'est la seule affaire de Dieu. La réaction du peuple, la réaction de Pharaon, n'a aucune espèce d'importance. Dieu renvoie Moïse porter sa parole avec les mêmes termes qu'auparavant. Certes, la situation est inconfortable, mais l'assurance qu'il lui donne, c'est qu'il contrôle parfaitement la situation, qu'il assurera le salut du peuple en temps voulu, par les moyens voulus, et ce ne sera pas la dernière fois que Dieu rappellera cela à Moïse. Si vous regardez dans le chapitre 7, au verset 4, voici ce que Dieu dit à Moïse avant de l'envoyer. « Vas-y, parle à Pharaon. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. » Au chapitre 11, encore une fois, l'Éternel avait dit à Moïse « Le Pharaon ne vous écoutera pas afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. Il ne t'écoutera pas. Mais ce que je te demande, c'est de parler parce que j'ai un plan qui est déjà programmé. » Nous avons un autre exemple avec le prophète Jérémie, dans Jérémie 7, 27. « Tu leur diras tout cela. Ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras. Ils ne te répondront pas. Mais ce n'est pas ton problème. C'est le mien. Ton problème est de faire ce pour quoi je t'ai appelé. » Notre rôle n'est pas d'être la personne par laquelle Dieu remporte la victoire. Ça, c'est le rôle de Jésus. Nous ne sommes pas les messies de l'humanité. Nous sommes ceux qui proclament le Messie. Dieu lui-même obtiendra la victoire sur l'Égypte et ne permet à personne de lui voler sa gloire. Notre rôle est de proclamer l'œuvre de Dieu. Écoutez les instructions de Paul à Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 4. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprends, encourage, fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dieu nous renvoie avec la pleine conscience que le contexte est difficile. Il sait que les gens qui nous entourent n'ont pas envie de nous entendre. Il sait qu'ils ont bien d'autres sujets de préoccupation. Il sait tout cela. Mais il nous dit, ton job à toi, c'est de parler. Moi, je m'occupe du reste. Nous ne sommes pas nécessaires à l'œuvre du Dieu. Pourtant, dans la seconde partie, Dieu rappelle une deuxième chose à Moïse, c'est que nous sommes appelés dans une mission qui est à Dieu, mais où nous sommes voulus par Dieu. Dans la suite de notre texte, nous trouvons la généalogie d'Aaron et de Moïse. Alors, je ne vais pas du tout détailler cette généalogie, mais je voudrais seulement voir pourquoi elle arrive comme ça, en plein milieu de l'histoire. Dieu est en train de raconter quelque chose, on a un flux, puis tout d'un coup, pouf, on a une généalogie. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée de la placer là. Surtout qu'on avait déjà une première généalogie qui était au début. On dit, mais pourquoi il n'a pas ramassé tout ça, fait quelque chose de cohérent? Pourquoi répéter sans arrêt les mêmes choses? Surtout qu'une partie était déjà dans Genèse 46. Enfin, Moïse, franchement, personne ne t'a appris à écrire. Dieu veut faire quelque chose. Par elle, Dieu nous montre que dès le début du peuple de Dieu, dès les origines du peuple de Dieu, dès les premiers fils de Jacob, dès l'instauration par les 12 frères des 12 tribus, Dieu avait prévu Moïse et Aaron. Et si nous avons pu voir que le résultat n'est pas lié au talent d'orateur d'Aaron, il n'est pas lié aux compétences propres de Moïse, ce rappel de leur généalogie nous montre que Dieu les avait prévus pour cette tâche depuis longtemps. Ils sont là où Dieu voulait qu'ils soient. Dieu avait absolument tout organisé. Cette généalogie donne une légitimité claire à Aaron qui accompagne Moïse. Dieu savait depuis le début qu'ils seraient là tous les deux, incapables l'un et l'autre. Aaron, incapable d'annoncer le plan de Dieu, et Moïse, incapable de le communiquer à Pharaon. Mais Dieu, depuis le début du peuple, avait prévu que ces deux hommes-là, de la famille des Lévites, seraient ensemble devant Pharaon, et que c'est par eux qu'il libérerait son peuple. Regardez comment le texte le souligne dans les versets 26 et 27. Verset 26, « C'est à cet Aaron et ce Moïse que l'Éternel dit, faites sortir les Israélites d'Égypte en corps d'armée. » Et il le répète encore au verset 27, « Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, au roi d'Égypte. Il s'agit de ce Moïse-là et de cet Aaron-là. » Toute la généalogie est là pour nous montrer que Dieu avait tout organisé pour que ce Moïse, cet Aaron, soit là et que le peuple soit délivré par leur intermédiaire, malgré tout ce qu'on vient de voir. Dieu est le seul et unique responsable du salut de nos amis, de nos proches, de nos voisins. Nous ne pouvons pas les convaincre. Nous ne pouvons pas les changer si Dieu n'intervient pas dans leur vie. Pas si vous connaissez ce chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. C'est une espèce de vallée avec plein d'os, des os de partout. Et Dieu transporte le prophète en vision au milieu de cette vallée. On se dit, mais oh, c'est quoi ce truc macabre? Et il y a des ossements humains de partout, il est là au milieu de ces ossements. Et puis Dieu insiste, il dit, ben regarde, et qu'est-ce que tu vois? Ben, ils sont secs. Et Dieu lui dit, mais tu crois que ces os vont pouvoir revivre? Mais Ézéchiel est un peu embêté, il dit, écoute, toi tu le sais. Hein. Pas trop quoi te dire. Et Dieu lui dit, parle à ses eaux, prophétise sur ses eaux, prophétise, donne mon message, donne ma parole à ses eaux. Et voilà ce que tu leur diras. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez, je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel, Yahweh, le Dieu de la rédemption, le Dieu de l'Alliance. Et voici la scène qui nous est décrite. Il y a un bruissement, des mouvements, et puis Ézéchiel voit les eaux qui se rassemblent les uns des autres et qui commencent à se rapprocher, à composer. Et puis il voit des nerfs qui commencent à pousser, la chair qui pousse. Vous imaginez ça? Et vous imaginez la scène? Mais il y a un problème. Ils sont reconstitués, ils sont morts. Et Dieu lui dit, mais il faut encore que tu prophétises, il faut encore que tu prêches ma parole. Demande à l'Esprit de venir. Et c'est... Ézéchiel prophétise, il demande à l'Esprit de Dieu de venir. Et ses os se remettront à vivre. Et Dieu conclut comme ça. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé, j'ai agi, déclare l'Éternel Yahweh. L'évangélisation, ce sont des morts qui ne peuvent pas être convaincus par ce que vous leur racontez. Vos voisins, vos amis, vos proches, vos collègues de travail sont spirituellement morts s'ils ne connaissent pas Dieu. Tout ce que vous pouvez leur dire ne changera rien si Dieu n'agit pas avec vous. Il faut que l'Esprit se saisisse d'eux et qu'il fasse revivre ces corps morts. Nous ne pouvons pas faire cela. Aucun de nous ne peut faire cela. Dieu seul peut le faire. Mais notre responsabilité, c'est juste d'être là et de proclamer ce que Dieu a dit. Dans la famille où il nous a placés, dans l'entreprise où il nous a trouvé un boulot, dans le quartier où il nous a trouvé un logement, à l'endroit où nous sommes, à l'époque où nous sommes, Dieu a prévu depuis des générations que nous soyons là. Depuis l'éternité passée, Dieu a préparé l'endroit où vous êtes maintenant. Il l'a déjà annoncé de toute éternité que vous seriez là où vous êtes pour porter sa parole, pour que sa parole et son esprit puissent agir. Dieu avait prévu Moïse et Aaron depuis des générations. Il en a fait de même pour chacun de nous. Nous sommes exactement là où Dieu veut que nous soyons pour la mission qu'il nous a donnée de faire des disciples. Je voudrais conclure avec vous. Je vais conclure avec les deux versets de notre texte. Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Moïse répondit en présence de l'Éternel « Je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écouterait-il ? » Répète au Pharaon. Depuis combien de temps est-ce que Dieu m'appelle ? C'est la 8e fois que Moïse dit non. Qui suis-je ? Qui es-tu ? Ils ne me croiront pas. Tu sais, je ne suis pas doué pour parler. Non, je ne veux pas y aller. C'est encore pire maintenant. Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment est-ce que le Pharaon va m'écouter ? Tu sais, je n'ai pas la parole facile. C'est la 8e fois que Moïse refuse de parler à Pharaon. Mais quand Moïse parlera la prochaine fois à Pharaon, il enclenchera le processus que Dieu avait prévu depuis des centaines d'années. Et Dieu sera au début d'une œuvre de jugement et de libération. 8 excuses. Mais la prochaine fois qu'il parlera, la vie du peuple entière sera changée. Combien est-ce que d'excuses nous avons ? Ils ne m'écouteront pas. Oui, ils ne t'écouteront pas. Mais ce n'est pas ton problème. C'est le mien, nous rappelle Dieu ce matin. Je ne suis pas la bonne personne. Oui, tu es la bonne personne. J'ai préparé ta place depuis des générations. Tu es là où tu veux que tu sois. Encore une fois, Dieu nous appelle. Est-ce que nous l'écouterons aujourd'hui ou est-ce que nous avons une 9e excuse pour ne pas obéir ? Mais peut-être que ce matin, nous ne sommes pas chrétiens, peut-être que quelqu'un n'est pas chrétien dans cette salle. Et il me semble que ce texte comporte également un appel pour vous. Un appel à considérer le plan que Dieu met en œuvre pour vous sauver. Depuis Éden, le péché est entré dans le monde et chaque homme, chaque femme de chaque génération est condamné. Il est esclave de Satan. Il est né dans l'esclavage. Ce n'est pas qu'il est tombé dans l'esclavage, c'est qu'il est né dans l'esclavage. Personne ne peut en réchapper. Mais de la même manière que Dieu s'est engagé auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob d'anéantir le pharaon qui maintiendrait son peuple en esclavage, au moment voulu, il a envoyé son fils sur terre pour racheter au prix de sa vie. Dieu est un Dieu qui se révèle dans la rédemption, dans le fait qu'il paye le prix nécessaire pour nous sauver. Vous avez peut-être entendu de parler de Dieu, mais vous ne pouvez pas le connaître si vous n'avez pas compris son œuvre de rédemption. Dieu n'est pas loin, il entend vos souffrances, il a des projets de paix pour vous. Ce projet est qu'il soit votre Dieu, que vous soyez son peuple, qu'il habite en vous par son esprit. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu et vous ne pouvez pas vous y cacher, vous ne pouvez pas vous échapper à son appel. Si vous entendez son appel, si vous désirez le comprendre, n'hésitez pas à venir nous en parler. Je vois, on n'est pas beaucoup d'anciens aujourd'hui, mais il y a au moins Jean-Noël et moi, je ne sais pas, non, on n'a pas d'autres anciens aujourd'hui. Et puis si, Jean-Olivier, excuse-moi, je ne t'ai pas vu tout au front. N'hésitez pas à venir parler. Et puis Tony, pardon, ah ben si, on est pas mal d'anciens aujourd'hui finalement. Et puis je voudrais juste prier avec vous pour conclure. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous montre l'étendue de ton plan pour nous. C'est pas juste un accident ou un jour, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais Jésus s'est retrouvé sur une croix. C'est un acte mûrement réfléchi depuis l'éternité passée. Au moment voulu, tu avais programmé le fait que ton Fils viendrait sur cette croix, qu'il prendrait notre place, qu'il prendrait notre condamnation. Le jugement de l'Égypte est retombé sur lui. Et nous avons pu y échapper. Nous voulons te remercier d'avoir détourné la colère que nous méritions par nature sur ton Fils. Nous voulons te remercier parce que ton Fils a vaincu la mort. Il n'est pas resté dans ce tombeau, mais il est ressuscité. Et c'est par la puissance de sa résurrection que tu nous rachètes. Notre Dieu, aide-nous à proclamer cela autour de nous, à tout ce qui nous entoure. Aide-nous à ne plus chercher d'excuses, à ne plus être culpabilisés par nos faibles résultats, mais à seulement t'obéir dans la toute simplicité, raconter ce que tu as fait pour nous, raconter ce que tu as fait pour eux. Au nom de Jésus. Amen.